Bienvenue. Vous écoutez le premier épisode de notre podcast Permis d'évaluer. Pour lancer nos réflexions sur l'expérimentation et l'évaluation en architecture, nous avons souhaité rencontrer et écouter Véronique Biot. Véronique est actuellement chercheure à l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Lavillette et elle est membre de l'équipe de recherche LET de l'UMR La Vue. Elle a une formation d'architecte DPLG, elle est architecte urbaniste en chef de l'État et elle a également soutenu un doctorat en sociologie à l'École des hautes études en sciences sociales en 2000 et soutenu son habilitation à diriger des recherches en 2018. Ses travaux portent sur les processus et les acteurs intervenant sur la conception et la production des espaces architecturaux et urbains. Et ces travaux donc s'articulent autour d'une série d'entrées thématiques telles que la transformation des pratiques professionnelles des architectes, les architectes et la question de la notoriété, l'organisation, la maîtrise d'œuvre et l'attribution des marchés publics en Europe, bien encore les partenariats publics-privés en Grande-Bretagne, le rôle des architectes dans l'habitat participatif, et également la question des urbanistes et la définition d'une identité professionnelle partagée. Elle est l'autrice de nombreux ouvrages et articles. En voici quelques exemples que nous avons retenus parce qu'ils sont particulièrement en lien avec les sujets que nous abordons dans cet épisode. Un premier article qui date de 1999, paru dans la revue Villes en parallèle, dans le numéro 17-18, qui s'intitule « Innovation architecturale, logique de recherche, logique d'action ». Elle a également publié en 2004 un ouvrage coécrit avec François Lautier qui s'intitule « Enjeux, critères et moyens de la qualité dans les opérations de logement », publié par le PUCA. Et puis, très récemment, puisque cet ouvrage date de 2020, Véronique a publié le livre suivant « Les architectes au défi de la ville néolibérale » aux éditions Parenthèse.
Dans le cadre de cet entretien, nous dressons d'abord un panorama rétrospectif des pratiques d'évaluation des expérimentations architecturales et urbaines qui se sont développées depuis une cinquantaine d'années en France, en soulignant deux grandes logiques. D'une part, la logique d'expérimentation, d'inspiration techniciste, et d'autre part, une logique de l'œuvre. C'est ensuite les évolutions survenues au tournant des années 2000 qui sont analysées avec Véronique Biot pour finalement tenter de se projeter vers l'avenir de l'évaluation. Qu'y a-t-il aujourd'hui à évaluer, selon quels critères, avec quelles méthodes et par quels acteurs?
Pour commencer, nous souhaiterions revenir avec toi, Véronique, sur ce couple expérimentation architecturale et évaluation, à partir d'un regard rétrospectif portant sur ces 50 dernières années. Dans tes travaux, tu identifies que, durant cette période, deux approches différentes émergent.
Oui, en effet, je vois deux logiques dans l'activité d'évaluation en architecture sur lesquelles je vais revenir plus longuement, qui s'opposent assez radicalement en fait. Il y a une logique plutôt d'inspiration techniciste qui serait une logique d'expérimentation, un peu dans le registre de justification de la cité industrielle, si on reprend les catégories de Luc Bodansky et de Laurent Thévenot. Et puis, vraiment d'une manière très différente, une logique de l'œuvre, plutôt basée sur l'activité de la critique architecturale et dont l'idée est plutôt d'attribuer une valeur symbolique, un label. Alors là, on serait plutôt, si on reprend les catégories de Luc Bodansky et de Laurent Thévenot, dans le registre de la cité inspirée, on pourrait dire, pour éclairer cette dualité. Donc quand on voit les choses dans cette tension entre la logique d'expérimentation et la logique de l'œuvre, on trouve très pertinente votre question en fait, cette question du permis d'évaluer, parce qu'on se rend bien compte que ni la logique de produit, ni la logique de l'œuvre ne sont tellement pertinentes en fait dans le contexte dans lequel la conception architecturale et urbaine est prise aujourd'hui. Et on peut se demander effectivement qu'est-ce qu'il y a à évaluer aujourd'hui et comment on peut tirer parti des tentatives d'évaluation qui ont vu le jour dans ces 50 dernières années, ces deux grandes catégories d'approches de l'activité architecturale.
Peux-tu développer l'explicitation de ces deux logiques qui ont prévalu selon toi sur cette période ? La logique d'expérimentation techniciste a-t-elle précédé celle de l'œuvre ?
La logique d'expérimentation, effectivement, je la fais revenir, remonter aux années 70-90, notamment, je pense, avec le rôle très important du plan construction qui a été créé en 1972. Et il faut se remettre dans une période où donc le plan construction, l'architecture, était sous la tutelle du ministère de l'Équipement. Ministère qui était très fortement marqué, il l'est moins maintenant, mais à l'époque très fortement marqué par les grands corps techniques de l'État, les ingénieurs des ponts et chaussées, les ingénieurs des travaux publics de l'État notamment. Donc il me semble qu'à cette époque-là, on était vraiment dans le projet de rationaliser la filière de la construction. C'était le cas aussi dans d'autres pays européens d'ailleurs. Je pense à l'exposition qui avait fait parler pas mal d'elle au Centre de création industrielle, au Centre Georges Pompidou, en 1984, une exposition architecture et industrie. Et je pense aussi à la référence qui était très présente à l'époque à l'industrie automobile, avec l'idée de décaler de ce que l'on pouvait observer dans l'industrie automobile, décaler des résultats à appliquer dans le domaine de l'architecture et de la construction. C'est d'ailleurs une époque où Christophe Midler et les chercheurs des laboratoires de l'École des Mines, l'École des Mines qui s'occupe du secteur automobile, étaient très présents dans le débat architectural. Je pense en particulier à leur présence dans les colloques du réseau Rameau, le réseau sur les activités et métiers de l'architecture et de l'urbanisme. On a beaucoup écouté à ce moment-là Michel Calon, Christophe Midler, voilà, Armand Hatchuel, toutes sortes de chercheurs qui venaient dans le domaine de l'architecture avec une expérience de la rationalisation dans le secteur automobile.
Et comment l'expérimentation se déroulait-elle dans ce contexte ?
Alors, à cette époque, avec le plan construction, il y a eu notamment trois types d'expérimentation qui ont été développées, qui étaient un peu sur un principe ternaire. Il s'agissait en trois temps, en fait. D'une part, d'appliquer un procédé innovant à un échantillon, un peu dans une idée de prototypage. Ensuite, dans un deuxième temps, d'analyser le produit. Et là, c'était notamment des recherches, et notamment des recherches sociologiques, mais pas simplement. Donc, d'évaluer les réussites, les échecs. Par rapport à la première production, disons, prototype. Et puis, la troisième phase était, en tout cas dans l'idée, d'élaborer une deuxième vague de produits qui tiendrait compte de l'expérience précédente et qui serait, en principe, en tout cas, plus performante. Alors, je pense à ces trois types de procédés expérimentaux qui se sont développés sous l'égide du plan construction. C'était les programmes d'architecture nouvelle. On connaît maintenant les Europans, mais les programmes d'architecture nouvelle se sont développés bien avant, de 1974 à 1989. Je pense aussi aux réalisations expérimentales. Et au modèle innovation. Donc, dans les deux cas, dans les trois cas d'ailleurs, il s'agissait en fait de rapprocher des intervenants qui n'avaient pas vraiment l'habitude d'être ensemble pour travailler sur des formes expérimentales et de les conduire en fait à développer des manières de travailler différentes. Donc, dans le cas des programmes d'architecture nouvelle, il s'agissait de rapprocher des architectes et des maîtres d'ouvrage dans une thématique qui était donnée tous les ans. C'était un petit peu le même principe que les Europans actuels. Et donc, le ministère aidait ce rapprochement et aidait ensuite la réalisation des opérations qui étaient primées. Dans le cas des modèles innovation, il s'agissait de rapprocher les architectes et les entreprises du bâtiment et des travaux publics, donc d'essayer d'inventer des formes techniques nouvelles. Et puis, il y avait donc ces réalisations expérimentales aussi qui rapprochaient alors, elles, les maîtres d'ouvrage d'entreprises du bâtiment pour essayer de faire avancer leur réflexion en fait ensemble.
Et qu'est-ce que cette logique expérimentale a produit en matière d'architecture ?
Le principe a fonctionné d'une certaine manière. Quand on pense à différents types de politiques de modèles qu'il y a eu à ce moment-là, je pense aux logements d'Andro et Para, qui ont été assez développés sous cette forme d'habitat intermédiaire pyramidal. On voit bien ces ensembles qui ont été réalisés, notamment dans les villes nouvelles, dans les pôles d'équilibre, le Val de Fontenay, etc., dans la région parisienne, avec ces terrasses assez grandes. Je pense que vous avez en tête les jardinières assez importante qui était là pour justement aider un peu à donner de l'intimité à ces terrasses. Je pense évidemment aussi aux politiques des modèles dans les équipements, avec ce programme des 1000 piscines en 1969, dont les fameuses piscines tournesol qui étaient conçues pour être ouvertes quand il faisait beau et fermées quand il faisait mauvais. Donc il y en a quand même eu 183 qui ont été réalisées sur le même modèle. Et puis, on pense, c'est un mauvais souvenir, mais on pense au collège Payron, dans un programme des années 60 où il était question d'un collège par jour. Voilà, on avait cette idée de rationaliser la production, même avant en fait la création du plan construction. Puis ensuite, sous l'égide du plan construction et architecture, on a réfléchi plutôt en termes de catalogue de composants compatibles, d'industrialisation ouverte. Voilà, on a tenu pendant longtemps cette logique industrielle.
Comment a-t-on évalué ces productions ? Selon quels critères, d'après toi, et quelles ont été les limites de ce type d'approche ?
Alors évidemment, cette logique industrielle, elle est assez décalée par rapport au domaine de l'architecture, à celui de la production de l'habitat, et on a très vite constaté un certain nombre de limites. D'une part, c'était bien sûr tout ce qui était la question de l'intégration au contexte. C'est bien sûr cette politique de modèle est une forme de négation de l'identité d'un site, d'un lieu, de la spécificité d'un contexte. On a très vite vu d'ailleurs qu'il y avait une grande difficulté à monter en généralité à travers les travaux d'évaluation, puisqu'on faisait des évaluations qui étaient très monographiques, opération par opération, et qu'on n'avait pas vraiment les éléments pour tirer des résultats plus généraux à partir de ces collections de monographies. Une autre limite qu'on a assez vite constatée, c'est que ces opérations expérimentales, elles étaient soumises à des évaluations d'au moins trois types, on va dire, des évaluations sociologiques sur l'appropriation par les habitants, sur leur satisfaction, des évaluations économiques où on allait voir le budget, la formation des prix, des évaluations techniques aussi pour voir la réussite de ces processus expérimentaux dans le domaine de la construction. Et il était rare en fait que ces évaluations soient confrontées entre elles. Donc on avait trois aspects qui n'étaient pas réellement mis en interaction et qui ne permettaient pas vraiment de tirer des conclusions. Et puis le troisième point qui a finalement pas mal obéré cette politique d'expérimentation telle que le tout premier plan construction l'avait développé, c'est que malgré tout, la diffusion des résultats était assez confidentielle. Elle était assez limitée au monde de la recherche et de l'enseignement à travers des travaux de synthèse. On en a eu un certain nombre sur un concours ou sur plusieurs concours. Je pense aux travaux de Christian Mollet sur les REX, aux travaux de Monique Eleb, d'Anne-Marie Châtelet, de Thierry Mandoul sur le pan numéro 14. Il y a eu aussi des travaux de Daniel Valabrègue, Jean-Louis Violeau, Robert Prost. Donc il y a eu réellement un travail de synthèse. Mais personnellement, je ne sais pas jusqu'à quel point ils se sont diffusés dans les milieux professionnels. Et comment ils ont pu franchir la barrière du monde de l'enseignement et de la recherche traditionnelle. Puis voilà, de tout ça, en fait, il est clair que la méthode d'évaluation par l'expérimentation ne colle pas avec la question de l'architecture, surtout à partir des années 70-75.
Ce constat de relatif échec marque donc le passage à une deuxième période qui correspond à cette seconde logique que tu as évoquée en introduction, la logique de l'œuvre. Mais cette transition est peut-être aussi liée à d'autres facteurs.
Oui, évidemment, je me suis arrêtée un peu aux années 70-75 là, dans ma présentation de la démarche plutôt expérimentale, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent à la fin des années 70, au début des années 80, qui mettent cette logique en marge pas mal de la réflexion. Bon, c'est bien sûr dès les années 80, la rupture assez marquée avec les théories de l'architecture moderne. Je pense notamment à ce moment fort qui est celui auquel Christian de Porzamparc, justement, est lauréat du PAN avec le projet de la rue des Hautes Formes à Paris dans le 13e arrondissement, et qui me semble être le moment où s'ouvre en France le débat du postmodernisme. Donc un débat beaucoup plus culturaliste, beaucoup plus contextualiste, dans lequel cette question du rapprochement avec l'industrie automobile n'a évidemment plus rien à voir. Et puis les années 80, c'est aussi l'arrivée à la présidence de François Mitterrand, avec cette manière de renouer pour lui avec la dimension monumentale de l'architecture, les grands projets, l'architecture comme expression du pouvoir. Donc on fait jouer à l'architecture un rôle tout à fait différent. Surtout parce que après François Mitterrand s'enclenche toute une vague de grands projets d'architecture municipaux après la décentralisation, au moment où les collectivités locales deviennent maîtresses de leur architecture et de leur urbanisme. Et on entre probablement, c'est maintenant qu'on l'analyse sous ces termes-là, dans les premières formes de la néolibéralisation de la ville, si on prend les termes de Gilles Pinson ou de David Harvey, avec cette concurrence généralisée entre les villes grandes et moyennes pour se montrer les fers de lance de la création, de l'activité culturelle, de la distinction. Il y a une sorte le cercle vertueux, on va dire, de la consécration qui se met en place, des élus qui se montrent engagés dans une dynamique positive pour leur commune, notamment à travers les méthodes du marketing territorial. Elle cherche à attirer les classes créatives, la formule de David Harvey, les entreprises high-tech. Donc il y a une sorte de logique de l'offre en fait qui se développe. Hein. On essaye de faire valoir sa ville à travers des programmes architecturaux ambitieux, une forte dimension de communication, on recourt à des grands architectes qui sont aussi des grands architectes qui savent exprimer leur position, qui savent aussi bien sûr l'exprimer par des gestes architecturaux assez marquants qui sont favorables à toute la dimension médiatique en fait de ce moment-là. Et puis c'est le grand fonctionnement de ce que j'ai proposé d'appeler l'architecture comme champ, hein, en pensant aux travaux du sociologue Pierre Bourdieu qui a appliqué ce terme-là à d'autres champs de production culturelle dans lesquels ils étaient aussi très très clairement lisibles, un champ qui fonctionne beaucoup autour des questions de reconnaissance symbolique, de légitimité. Et dans le cas des grands projets des maires, c'était vraiment une légitimité qui fonctionnait par écho des uns sur les autres, hein, les grands architectes donnant aux grands élus la légitimité dans le champ politique, légitimité qu'ils étaient en train de rechercher. Donc c'est vraiment une grande période où on pourrait parler de l'architecture pour l'architecture. Je crois que c'est Jacques Allégret qui a employé cette formule là en mettant des majuscules à architecture, un peu en écho à ce qu'on avait eu au 19e siècle de l'art pour l'art, donc avec un rôle très important, des publications dans la presse architecturale, des prix au-delà des pans dont on parlait. Il y a tout un système de prix qui se met en place dans les années 80, et puis bien sûr après la loi MOP, les grands concours de la commande publique qui orientent énormément le débat architectural. Donc c'est une grande période dans laquelle la question du geste est extrêmement présente, peut-être de la gesticulation si je repense à cette polémique qu'il y a eu, vous en souvenez sans doute, autour de l'écart d'argent en 2007 avec le prix qui a été attribué à cette année-là, cette session-là de l'écart d'argent à Nathalie Franck et à Yves Ballot à Bordeaux pour la réhabilitation d'un groupe scolaire qui était tout en discrétion et avec une intervention extrêmement modeste. Voilà, donc il y a en fait dans toutes ces périodes-là un énorme changement, vous voyez, dans la manière dont on approche la question architecturale et les valeurs qui sont celles de l'action en architecture.
Et selon toi, quels étaient les acteurs de l'évaluation dans cette seconde période ?
Alors, au moment où je l'ai étudié, mon enquête de terrain s'arrêtait en 1995. C'était vraiment l'État qui était à la manœuvre derrière tout ça, dans une coalition assez forte avec la critique architecturale et les grandes instances de consécration, j'ai utilisé ce terme-là, étaient vraiment autour des prix, des postes, et des publications qui étaient finalement pilotées conjointement par le ministère à travers toutes ces actions de label qu'elle a développées à ce moment-là. Je pense aux PAN et aux Europan, donc qui se sont prolongées jusqu'à maintenant, aux albums de la jeune architecture qui ont pris plusieurs définitions, plusieurs formulations, mais qui ont aussi ce rôle pour le ministère d'affirmation d'un rôle dans la désignation des jeunes architectes de talent. Alors évidemment, c'est vrai, il y a le groupe Le Moniteur qui est bien sûr très important. Je viens de parler du prix de l'écart d'argent qui a beaucoup d'audience dans le milieu professionnel. Et puis il y a eu, mais je crois de manière assez fugace, un certain nombre de fondations ou d'entreprises privées qui ont aussi essayé de jouer un rôle dans ce système de consécration. Il y avait la Fondation Butagaz, d'autres acteurs dont j'ai plus le nom en tête, qui ont essayé aussi de jouer un rôle dans cette dynamique-là. Mais voilà, en France, on a au moins depuis André Malraux une idéologie assez forte d'un État qui a son rôle à jouer dans la définition de la culture et pour ce qui nous concerne de la bonne architecture. Et il me semble que c'est quand même vraiment autour des instances de l'État que les questions se sont articulées.
Alors venons-en peut-être maintenant aux évolutions marquantes plus récente de ces dernières décennies.
Oui, alors je ne sais pas si je vais pouvoir dire grand-chose sur l'avenir, mais en tout cas sur le début des années 2000, je vais reprendre tout simplement ce qui est assez patent. Hein. On parle de tournant, de transition, la transition environnementale, le tournant participatif. J'ai déjà évoqué les premières formes de néolibéralisation de la fabrication de la ville dans les années 80. Elle devient extrêmement forte à partir des années 2000. Il me semble qu'à ce moment-là, c'est moins le terme d'expérimentation que celui d'innovation qui se développe. Et j'écoutais récemment Charles Ambrosino parler de trois régimes urbains de l'innovation à propos d'une recherche qui n'est pas encore, je crois, publiée, qui s'appelle Demextra. Et c'est Demextra parce qu'il parle d'un régime urbain de l'innovation qui est fondé sur la démonstration, autour de la figure de l'ingénieur et avec un rôle d'impulsion ou d'accompagnement assez fort qui est tenu par les pouvoirs publics avec l'idée de l'échelle 1. C'est vrai que c'est quelque chose qui est présent très fortement dans les écoles d'architecture et on le voit bien sûr aussi dans l'innovation urbaine à travers la question des tiers-lieux, de l'urbanisme transitoire. Et des types d'activités de ce type-là, donc démonstration, exploration, qui lui, enfin une forme d'innovation qui est elle aussi impulsée par les pouvoirs publics, mais qui tourne plutôt autour de la figure de l'artiste. Et puis transformation, et pour lui, pour Charles Ambrosino, pour son équipe, il s'agit plutôt alors là d'initiatives individuelles et collectives qui remontent en fait d'associations du cadre de vie, de comités de quartier qui viennent donc impacter la manière de faire à l'échelle urbaine. Alors, ce qu'on voit aussi dans le domaine artistique, et quelquefois c'est intéressant d'aller voir juste à côté pour comprendre ce qui se passe en architecture, c'est aussi l'effacement d'une revendication de la dimension esthétique. Je pense à Yves Michaud qui parle du post-esthétique, d'une disparition progressive de l'objet artistique au profit du processus. Là, on a quelque chose que l'on connaît bien aussi en architecture, non pas la disparition complète de la dimension esthétique, mais une dimension esthétique qui est plutôt rapportée à l'expérience individuelle, à l'expérience sensible et qui n'est pas forcément théorisée, intellectualisée comme l'était l'esthétique traditionnelle. Alors en architecture, on a aussi hein, cette prise de conscience d'une grande importance du processus de production et on attribue une assez grande pertinence en fait à ce processus comme étant le garant en fait d'une sorte d'adéquation de l'objet qu'on va produire aux caractéristiques d'une situation, aux attentes d'un ensemble d'usagers qui sont hétérogènes et sur lesquels il va y avoir des arbitrages à opérer. Alors ça va bien sûr avec la reconnaissance des savoirs d'usage, avec une autre représentation aussi, hein, bien sûr, du rôle et de la responsabilité des concepteurs. On attend d'eux maintenant moins la question de la qualité, qui a quand même suivi la question architecturale depuis des siècles, hein, si on pense à Vitruve. On parle maintenant moins de qualité que de valeur. Et je pense notamment au rapport qui a été commandé par Françoise Nyssen, ministre de la Culture, qui s'intitule « Les valeurs de l'architecture ».
Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ce rapport et sur les critères de valeur qu'il définit ?
Oui, alors le rapport n'est pas public, mais j'ai pu consulter des documents préparatoires et de manière qui me semble assez intéressante, le groupe de travail qui a travaillé sur ce rapport ministériel identifie cinq valeurs en fait majeures de l'architecture il les identifie comme autant de fondements en fait de la place de la discipline et de la profession d'architecte dans la société. Alors il y aurait la valeur culturelle. Donc bien sûr, hein, l'architecture comme capacité d'expression, comme modalité symbolique de représentation d'une société. Je pense aussi à Henri Raymond et ce qu'il appelait une histoire architecturale de la société. L'idée que l'architecture est la représentation matérialisée des modes de faire, des modes de vie, des hiérarchies sociales d'une société à un moment donné. Donc pour eux, dans ce groupe de travail qui était assez hybride, hein, où il y avait des chercheurs et des praticiens, pour eux, la valeur culturelle transite par la valeur esthétique, mais elle la dépasse largement. Donc voilà, la valeur culturelle. La deuxième valeur qu'ils identifient, c'est une valeur sociale, donc qui est liée en fait à la question de l'utilité de l'architecture, qui bien sûr renvoie à une éthique de professionnels qui seraient conscients, investis dans leur rôle social. Moi, j'aime bien parler de la responsabilité sociale de l'architecte. Donc c'est une valeur qui vise en fait le bien-être des personnes, quelles qu'elles soient, dans le cadre de leur vie quotidienne. La troisième valeur qu'ils identifient, c'est la valeur économique, celle qui n'était pas présente dans la trilogie vitruvienne. Donc voilà, ils font le constat qu'on est dans un système qui est fortement basé sur la question de la rentabilité, que construire, c'est une activité économique comme une autre, et que ça contribue aussi à la production de richesses. Donc il y a bien sûr la question de l'efficience architecturale dont on ne peut pas s'affranchir, mais qui ne peut de toute façon pas se résumer à ça aussi. Et ils font cette remarque que j'ai trouvée très intéressante, de se dire que quand la production architecturale ne s'affranchit pas suffisamment de logique affairiste et de vision à court terme, finalement c'est à l'État que ça coûte très cher. Ils prennent l'exemple des grands ensembles et de la production massive de les médias après Deuxième Guerre, en se disant cette volonté qu'il y a eu à l'époque de répondre dans l'urgence et à bas prix aux besoins de logement a finalement coûté extrêmement cher à l'État à travers toutes les opérations d'amélioration, de rénovation qui ont pris place depuis lors. La quatrième valeur qu'ils identifient, c'est la valeur territoriale. Donc, ils reviennent beaucoup sur cette question du petit bâti patrimonial, de la question de la qualité des petites opérations d'habitat, avec donc cette force qu'a l'architecture de mobiliser des réseaux, des groupes sociaux, des filières d'acteurs autour de processus fondés territorialement. Et puis, bien sûr, la cinquième, je ne pense pas qu'ils aient mis d'hierarchie hein, dans les cinq valeurs qu'ils détaillent, c'est la valeur environnementale, avec bien sûr cette question de la transition écologique, d'un urbanisme du déjà-là, et puis de la frugalité par rapport à la consommation des ressources. Donc, toutes ces valeurs qui sont en fait incluses dans les opérations de rénovation urbaine, de réhabilitation, dans lesquelles il y a le souci de recycler, de développer des filières biosourcées, etc.
Tu as donc pointé, Véronique, une série d'évolutions, passage d'une logique techniciste à une logique de l'œuvre, d'une évaluation de qualité à la prise en compte de valeurs. Et ceci, finalement, nous amène à nous interroger sur les effets éventuels de ces évolutions, des effets sur le métier, sur la profession d'architecte, sur les compétences qu'il mobilise éventuellement.
Oui, ça, je pense que c'est un enjeu important parce que dans les grandes modifications ou grandes même transformations que subit le métier d'architecte aujourd'hui, il y a plein de questions qui se posent sur l'apport en fait non substituable de l'architecte dans le système d'acteurs. Les architectes ont souvent peur de finalement disparaître un peu sous la pression des grands groupes technico-économiques, du BTP, etc. Et je pense, hein, comme les auteurs de ce rapport, je pense qu'il faut aussi rappeler cette spécificité qu'a l'architecte à mettre en forme, à mettre en espace, à assurer aussi une vision de synthèse en réalité hein, sur la totalité du processus, sur la totalité des logiques d'acteurs qui sont impliquées dans le projet. Et il est clair, il me semble clair pour moi que l'architecte ne doit pas se dessaisir en fait de cette dimension culturelle de son activité parce qu'il est le seul en fait à en être vraiment le garant.
Est-ce que tu observes d'autres évolutions de la pratique?
Oui, peut-être on peut revenir sur ces valeurs de la frugalité et de l'ordinaire qui prennent une place nouvelle, en tout cas une place même assez importante dans le débat actuel. Je pense à tout ce qui intéresse beaucoup nos jeunes architectes, on le voit beaucoup dans les HMO, NP. Donc toute cette manière d'imaginer une pratique architecturale qui sera plus hybride. Je pense à tous ces jeunes architectes qui souhaitent en fait avoir une dimension manuelle, en fait une dimension d'intervention physique sur les chantiers, donc autour de la question du fer qui renvoie un peu à la question des makers qu'avait travaillé Michel Lallemand. J'ai tombé sur cet entretien qui est publié dans le DA d'architecture de la semaine dernière avec Eduardo Souta de Moura et il parle justement de la comédie de Clermont-Ferrand dans ces termes-là. Je trouve qu'il montre bien ce qui est en train de se discuter et donc pas simplement en France visiblement. Il dit « L'architecte, il ne faut jamais l'oublier, est essentiellement un prestataire de service, ce n'est pas un artiste ». Un problème spatial se pose, on l'appelle, comme on appelle un mécanicien quand sa voiture est en panne ou un plombier quand des fuites apparaissent dans sa maison. Avec le temps, si l'édifice qui a été réalisé pour répondre à une demande particulière est adopté et apprécié par la population, il peut accéder au statut de patrimoine et alors seulement être considéré comme une œuvre. Mais il ne l'est pas intrinsèquement par la seule volonté de son concepteur. Sa raison d'être reste de répondre à un problème. Je trouve cette prise de position extrêmement intéressante par rapport à toute cette question qu'on vient de décrire, hein, de la logique de l'œuvre. Il explique bien, donc, il n'y a œuvre que s'il y a une sorte de validation par l'usage, en fait. Et que ce n'est pas l'auteur qui donne la légitimité à l'œuvre, mais c'est sa réception et son usage.
Et pour revenir à cet enjeu de l'évaluation, en quoi, comment l'émergence de ces nouvelles valeurs va impacter les modalités et les critères d'évaluation ?
Alors oui, concernant ce que vous venez de dire sur la manière d'évaluer en fait à partir de ces cinq grandes valeurs qu'a dégagé le groupe de travail qui a travaillé pour le rapport sur les valeurs de l'architecture qui avait été commandé par Françoise Nyssen. Là, on est vraiment encore dans les choses à développer, hein. On sent bien qu'il va y avoir tout un tas de nouvelles critériologies à trouver qui ne sont pas que du quantitatif et sur lesquelles il va falloir trouver des outils, des méthodes. On voit bien qu'il va falloir à la fois évaluer des processus, puisqu'on a bien dit, hein, qu'on est assez d'accord maintenant pour dire que le processus vaut souvent davantage que le résultat. Donc comment on évalue un processus, comment on évalue la capacité qu'il a eue à intégrer des acteurs différenciés, à les faire délibérer ensemble, à tenir compte des points de vue divergents, différents en tout cas. Il y a aussi une autre critériologie, il me semble, à élaborer sur la valeur des produits. Alors là, on reviendra peut-être, et là, il y a peut-être effectivement des enseignements à tirer, des évaluations qui se sont développées depuis les années 70 sur l'évaluation de la manière dont les espaces réalisés sont vécus, dont ils sont transformés, dont ils sont appropriés, et dont ils, enfin, peut-être aussi, on peut imaginer évaluer la pérennité de ces espaces. Et puis on peut imaginer aussi d'évaluer les professionnels qui sont concernés par ces nouvelles manières de faire. Je pense en particulier aux architectes, puisque c'est eux qui nous intéressent au premier chef, et à la capacité qu'ils ont ou qu'ils vont développer à être dans des processus plus collectifs et à mesurer finalement leur prise de position personnelle par rapport à la pertinence qu'elle a dans les différents cercles où ils sont inclus. Donc il me semble qu'il reste un certain nombre de modes d'évaluation de mon premier modèle, là, des logiques d'expérimentation, qui restent sans doute pertinents. Je m'avance avec beaucoup de prudence parce que je suis vraiment sur un terrain qui n'est, je crois, pas encore vraiment tellement ouvert. Donc on voit bien qu'il y a des partenariats qui sont recherchés, appuyés par l'État, appuyés par les pouvoirs publics, pour des opérations vertueuses. On pense à tous ces travaux, notamment autour des POPSU, et le plan de construction en revient sous son appellation de plan urbanisme, construction et architecture aujourd'hui, avec les questions des démonstrateurs. Bon, voilà, il y a bien sûr une filiation de cette action-là avec celle dont je parlais tout à fait au début, avec un adossement de chercheurs, hein, très clairement, pour apporter de la méthodologie dans cette évaluation, essayer de discerner aussi quels sont les différents objectifs de ces démonstrateurs. Et puis, il y a cette question d'expertise interdisciplinaire, peut-être plus forte qu'elle était dans les années 70-80. Peut-être qu'on a plus l'habitude de croiser maintenant les démarches plus de l'ordre des sciences pour l'ingénieur, on dirait, avec des démarches plus sciences sociales. Et d'essayer donc d'approcher une expérimentation d'une manière plus globale, plus synthétique, à travers différents points de vue, donc plus techniques ou plus sociologiques.
Et d'après toi, va-t-on retrouver finalement dans ces nouvelles pratiques des survivances du second modèle que tu as cerné ?
Quant au deuxième mode d'évaluation, celui que j'ai appelé la logique de l'œuvre, il me semble qu'elle ne peut pas disparaître complètement. Et je pense aux travaux de Lucien Carpic, qui a travaillé sur l'économie des biens singuliers, l'économie des singularités, dont fait évidemment partie l'architecture, hein, dans la mesure où les biens singuliers, ce sont des biens qui ne sont pas produits en série et dont la valeur est à chaque fois discutable. Lucien Carpic, il développe une dualité entre des dispositifs de jugement et des dispositifs de confiance dans ses travaux sur l'économie des singularités. Il me semble que c'est intéressant à regarder dans le cadre de l'architecture. Donc pour lui, le dispositif de jugement, je lui fais dire des choses qu'il n'a pas dites puisqu'il n'a pas travaillé sur l'architecture. Mais pour transférer son outil, voilà, son concept, le dispositif de jugement en architecture, ce serait les prix, les palmarès, les classements, tout ce qui, et là je le cite, procure des connaissances orientées par des critères, qualifie les produits, renforce les probabilités d'appariement des dispositifs, des produits et des consommateurs. Voilà, le dispositif de jugement, c'est ce qui va permettre à un consommateur, alors en architecture il faudra trouver un autre terme, d'aller trouver le produit qui correspond à la valeur qui est dominante de son point de vue. Donc le dispositif de jugement produirait une confiance, et c'est comme ça qu'on arrive à sa deuxième notion, donc qui est très très liée à la première, d'un dispositif de confiance qui repose pour partie sur les réseaux interpersonnels par lesquels les expériences et les connaissances circulent. Donc voilà comment on peut avoir confiance en la prestation de tel ou tel. Alors voilà, est-ce que ça repose sur des labels, sur des certifications, sur des marques? Est-ce que ça repose sur des guides, des critiques? Voilà. Dans le cas qui l'intéresse, il y a aussi la question des vins, par exemple, et donc il peut y avoir aussi dans les dispositifs de confiance la question des salons, voilà, tout ce qui crée en fait de l'échange autour des produits.
Alors, à quelle conclusion ces différentes évolutions possibles conduisent-elles pour l'évaluation architecturale ?
Ce que je retiens de tout ça, c'est que avec la pratique qui émerge et qui est assez radicalement différente de ce qu'on a pu connaître au cours de ces dernières décennies, il va y avoir bien sûr une nouvelle manière de concevoir l'évaluation à mettre en place, bien au-delà de cette trilogie vitruvienne que j'ai très rapidement évoquée. Il me semble que cette évaluation va devoir supposer des experts, la multiplicité d'expertises. Voilà, si on regarde ces cinq valeurs que j'ai déclinées, donc ça va supposer des expertises économiques, des expertises techniques, sociologiques, environnementales, territoriales, politiques. Voilà, il va falloir pouvoir mettre ensemble ces différents points de vue, ces différentes approches sur les objets sur lesquels on voudra porter un regard évaluatif. Il me semble que les pouvoirs publics, qu'ils soient nationaux ou territoriaux, sont au cœur de cette question de l'évaluation et le reste, à travers ce que je viens de dire, sur cette capacité à initier des agencements, des expérimentations nouvelles, dans l'esprit notamment de ces démonstrateurs qui deviennent assez présents dans le débat actuel. Et puis, très clairement, il restera un poids très important des médias, des réseaux, donc à la fois pour diffuser l'information, mais aussi pour produire de l'adhésion, hein, ce fameux dispositif de confiance que j'ai emprunté à Lucien Carpic.
Et quels seraient, d'après toi, les acteurs de ces évaluations dans ces formes renouvelées autour de ces valeurs contemporaines ? On serait qu'on pense notamment aux dispositions instituées par le récent permis d'expérimenter visant à favoriser l'innovation dans le domaine de l'architecture.
Oui, il y a cette question et une autre qui me vient à l'esprit qui est finalement, est-ce que cette évaluation sera dédiée aux chercheurs ou est-ce qu'elle se fera dans ces petits pôles qui sont en train de se développer dans un certain nombre d'agences d'architecture qui s'intitule recherche et développement. Est-ce qu'il y aura une forme d'évaluation qui sera plus directement liée à la pratique avec des profils qui seront formés, hein, là, en général dans ces cellules recherche et développement, il y a des doctorants ou des jeunes docteurs, donc des personnes qui sont formées à la méthodologie, à la neutralité axiologique, comme on pourrait dire, donc cette nécessité du recul par rapport à l'opinion, par rapport au jugement personnel. Mais voilà, ça c'est une question qui peut s'ouvrir dans les prochaines années, de savoir comment vont se positionner les milieux scientifiques, disons classiques, ceux des laboratoires labellisés, des écoles d'architecture ou des instituts d'urbanisme, et puis ce qui sera de l'ordre d'une recherche intégrée à la pratique professionnelle.
Alors justement, est-ce que ces recherches menées dans le cadre des pratiques professionnelles d'architectes et leurs évaluations pourront constituer des apports significatifs à la connaissance? Est-ce qu'elles en auront les moyens finalement?
C'est difficile de faire des pronostics sur cette question-là. Il y a deux aspects qui me tiraillent en réalité dans la réponse à cette question. D'une part, on voit dans les écoles d'architecture une demande de plus en plus forte soit d'étudiants d'ailleurs, soit de praticiens qui reviennent vers les écoles d'architecture avec le souci de faire une thèse en architecture. Donc on sent hein, ce besoin de réflexivité qui est très fort, y compris chez des personnes qui ont 40, 45, 50 ans, qui soit cherchent à revenir vers leur pratique avec un autre regard, soit à tirer parti de leur expérience professionnelle pour aller la proposer dans l'enseignement. Donc il me semble que on va plutôt vers une augmentation du nombre de personnes qui seront formées à la recherche dans le milieu des architectes. Et par ailleurs, ce que je vois comme une difficulté à la diffusion de ce mode de faire-là, c'est la petite taille des agences d'architecture en France. Petite taille qui ne permettra pas d'aller au-delà d'un certain nombre de profils. C'est-à-dire que ce que je vois pour l'instant, c'est le montage de petites polarités recherche et développement, mais dans des agences d'architecture qui ont au moins une quinzaine de personnes. On peut difficilement dédier un profil spécifique à la recherche et au développement dans des structures qui seraient plus petites. Donc, il y a beaucoup de choses à imaginer. Peut-être aussi, on va dans le sens d'une augmentation moyenne de la taille des structures d'architecture sous la forme de société. Ça aussi, ça renvoie quand même beaucoup à ce que nous disent les jeunes praticiens sur leur envie de travailler à plusieurs, hein, travailler en groupe, travailler en association, travailler en coopérative. Donc, je vois bien un exercice se faire de manière de plus en plus collective. Mais voilà, je ne sais pas du tout ce qui va remporter, si ce sera plutôt une augmentation de cette question de la réflexivité avec des praticiens qui auront été formés à la recherche, ou si c'est une limitation à ce développement-là du fait de la petite taille moyenne des structures d'architecture en France.
Il y a, pour finir, la question de la diffusion des résultats de l'expérimentation et de son évaluation. Tu as rappelé qu'elle fut souvent limitée dans les précédentes périodes. Penses-tu que les évolutions actuelles permettront de dépasser ce problème ?
Ça m'est difficile de me projeter sur cette évolution-là à venir. Ce que je vois, c'est que les modalités d'hybridation un petit peu entre les milieux de la recherche et les milieux professionnels sont plus nombreuses. Il y a l'action des maisons de l'architecture, il y a l'action des écoles d'architecture, il y a l'action même d'un certain nombre d'agences d'architecture qui ont des démarches pour essayer de faire connaître leur travail, de réfléchir dessus, de communiquer à travers leur site internet les retours sur expérience qu'ils ont eu. Donc je vois en fait une sorte de diffusion des modalités par lesquelles cette connaissance transite, et il me semble que ça va plutôt dans le sens d'une plus grande perméabilité des milieux. C'était d'ailleurs un peu le sens des dernières rencontres de notre réseau Rameau, qui était de voir justement cette circulation des expertises et leur hybridation en fait entre les milieux de la recherche et les milieux de la recherche et de l'université, de l'enseignement supérieur et les milieux professionnels. On sent hein, qu'il y a le besoin de rapprochement qui se fait et qui brouille un petit peu hein, les frontières traditionnelles du monde académique, des modalités d'intervention, des modalités de diffusion de la connaissance. Donc je pense qu'on va plutôt dans ce sens-là, de formes de réflexion commune qui vont se développer, qui seront plus nouvelles. Je pense aussi à toute la dimension participative de la recherche, qui mobilise maintenant quand même beaucoup de chercheurs, hein, ce souci de travailler une recherche avec les personnes qui feraient traditionnellement partie du terrain d'observation. C'est-à-dire qu'on ne se contente plus d'observer les professionnels, dans notre cas, mais de travailler avec eux sur une réflexion partagée des situations dans lesquelles on les observe.
Eh bien, un grand merci, Véronique Biot, pour cette mise en perspective sur le temps long du binôme expérimentation-évaluation architecturale et de ses enjeux.